l'émission de littérature Radio Campus Orléans avec en direct par téléphone Vinciane Després. Merci beaucoup d'être avec nous en direct.
Bonjour.
Nous parlons de votre nouveau livre, enfin de cette édition augmentée de ce livre qui datait de 2002 qui s'appelle « Quand le loup habitera avec l'agneau » qui vient de sortir aux empêcheurs de penser en rond et qui est suivi de « Entre-temps », une réactualisation de votre livre. Vinciane Després, j'aimerais que nous commencions par les perroquets Keas qui sont en Nouvelle-Zélande. Je vous lis. « Au fur et à mesure qu'apparaissaient dans leur environnement des objets de plus en plus nombreux et dignes d'exploration, au fur et à mesure qu'ils pouvaient en découdre avec du matériel de plus en plus sophistiqué, la ténacité destructrice, le goût et les talents pour le faire se sont accrus chez les Keas. Ils sont devenus de véritables experts des techniques humaines. Expliquez-nous que se passe-t-il là ? »
Alors en fait, ce sont des perroquets qui sont très particulier dans la mesure où ils ont un goût, il y a un talent exploratoire qui défie l'imagination. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent à sac, ils peuvent vraiment mettre à sac une maison. Et ce qui les intéresse beaucoup, ce sont les antennes, enfin les choses qui, une fois qu'elles sont manquantes, vraiment sont difficiles à réparer, enfin ou en tout cas coûtent très cher à réparer. Et les voitures, donc ce sont des grands démolisseurs d'antennes de voitures. Ils arrivent même à démonter pratiquement une portière. Et donc, ce sont des perroquets avec qui, en même temps, les habitants avaient envie de composer. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, ils avaient déjà défrayé la chronique. Lorsqu'on a introduit des moutons, on a constaté que les perroquets avaient comme fâcheuse manie de prélever sur le dos des moutons des petits morceaux de leur chair. Donc, ils essayaient de s'attaquer aux reins des moutons. Et à ce moment-là, leur tête avait été mise à prix. Et puis on se rendait compte que les Keas allaient disparaître alors qu'ils faisaient la joie et la fierté des Néo-Zélandais. Et donc on a essayé de trouver des arrangements pour qu'ils ne s'attaquent plus aux moutons, mais après ils s'en sont pris, surtout dans les villes, aux matériaux des humains. Et donc c'est à ce moment-là que les gens ont commencé à devoir trouver des stratagèmes pour essayer soit de les en empêcher, c'est-à-dire que vous voyez des voitures qui sont hyper protégées, soit éventuellement de les détourner. Et ça c'est beaucoup plus récent. En fait, en 2002, on en était toujours en train d'imaginer des scénarios de protection. Et puis, en allant prendre des nouvelles des Keas, puisque c'est ça que j'essayais de faire dans l'entretemps qui suit le livre, qui suit la nouvelle mouture du livre, c'est, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qu'il en est devenu de cette histoire? Parce qu'elle était encore relativement fragile en 2002. Je veux dire, les Keas pouvaient redevenir facilement, au vu de leurs extravagances, la cible d'une certaine manière de s'adresser à eux, c'est-à-dire de plus du tout de jovialité et de civilité, mais qu'on puisse imaginer de nouveau de s'en débarrasser. Et j'ai remarqué qu'en fait les choses avaient été vraiment elles ont bougé dans la mesure où d'abord on ne s'est pas contenté de protéger le matériel, les Néo-Zélandais ont créé, en se rendant compte que les endroits les plus difficiles à protéger, ce sont les aires d'autoroute où de nombreux touristes qui ne sont pas toujours au courant de ce dont les Keas sont capables et qui n'ont pas de voiture protégée se font vraiment vandaliser leur automobile. Et donc ils ont créé ce qu'ils appellent des Keas gyms, c'est-à-dire des aires de jeu auprès de ces aires d'autoroute afin que les Keas soient détournés de leur passion exploratrice destructrice plutôt vers des passions exploratrices ludiques. Donc on a appris à composer avec eux. Voilà une des histoires qui leur est arrivée.
Alors, une des histoires, et puis des éthologues vont mener des expériences avec eux. Vous écrivez que l'expléguerie des Keas est assez étonnante. Même adultes, ils ne cessent de jouer. Des chercheurs ont été intrigués par les appels au jeu, des vocalisations très spécifiques qui ne sont utilisées que dans ce contexte. Et que ces chercheurs vont se souvenir d'un article d'un neuroscientifique en 2007 qui affirmait que les rats rient lorsqu'ils jouent. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience et de ce phénomène qui relativise...
Oui, alors l'analogie avec les rats, c'est ça qui leur a donné l'idée en fait. Donc ils avaient remarqué en effet que les Keas, quand ils invitent, en tout cas ils avaient l'air d'inviter les autres au jeu, en poussant des petits cris qui n'étaient pas les mêmes que les cris habituels, donc qui étaient très très différents et qui pouvaient être facilement reconnaissables. Et ils se sont souvenus en effet de cette très belle recherche de Jack Panksepp, qui en fait est une recherche, c'était une recherche au départ qui était de savoir quelle était, en fait quand ils ont découvert que les rats riaient, c'est parce qu'ils essayaient d'étudier à cette époque-là, donc on parle du début des années 2000, les réactions physiologiques des rats des réactions plutôt musculaires et cérébrales. Donc on est câblé pour le, un petit peu étudier ce qui se passait dans le cerveau. Lorsqu'on est, alors il est chatouillé. Et un jour, un des chercheurs avait laissé l'appareil qui permet d'entendre les sons des races que nous n'entendons pas, puisqu'ils sont dans les ultrasons. Et en ayant laissé cet appareil, il a constaté que lorsqu'on chatouillait le rat, en fait, le rat riait. Enfin, ça ressemblait très fort à ce qu'ils appellent un rire primitif. Et puis, ils sont mis à étudier ce rire primitif. Et là, ça a fait une très jolie recherche parce que ce rire primitif, bon, ben, ils ont commencé à essayer de le susciter, bon, ben, de voir si on, d'abord d'apprendre à chatouiller les rats convenablement, et puis d'observer les rats quand ils jouent et de les observer de manière beaucoup plus éthologique, finalement, que ce qu'ils ne faisaient dans des recherches qui étaient fort, enfin, très, très sommairement expérimentales. Et puis, ils se sont rendus compte que les rats avaient peut-être, en fait, un rire qui était communicatif, c'est-à-dire qui incitait les autres à être affectés. On va le dire comme ça. Il n'allait pas beaucoup plus loin, mais il pensait en termes de pratiquement de contagion du rire. Et les chercheurs qui observaient les kéas se sont donc souvenus de cette recherche et se sont dit, est-ce que ce ne serait pas ce qui arrive à nos kéas? Est-ce que ce ne serait pas des formes d'appel, ou presque semblables à des rires, mais qui ne sont pas vraiment des rires, mais d'appel au jeu qui auraient un caractère totalement contagieux? Et ils se sont mis à faire ce que les chercheurs font d'habitude, c'est-à-dire à enregistrer ces appels et puis à les rediffuser pour voir l'effet que cela faisait. Et ils ont constaté quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est que quand l'appel est diffusé auprès de Kéa, même des Kéa qui étaient tout à fait en dehors du jeu, par exemple, qui ne jouaient pas, eh bien, irrépressiblement, ces Kéa se mettent à jouer et même parfois même à jouer tout seuls. Donc, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Et s'ils vont chercher un objet, ils vont se mettre à sauter sur place, etc. Et donc, c'est quelque chose de très joli, c'est que visiblement, les Kéas ont des modalités de s'adresser les uns aux autres qui leur permettent d'induire des humeurs de jeu chez leurs compagnons et de le faire comme cela à volonté. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire de penser que finalement, ils s'affectent mutuellement pour s'entraîner les uns les autres à en quelque sorte faire la fête. Et c'est la fête chez les Kéas.
Et alors, ça déjà, ça remet complètement en cause, ou ça réactive en tout cas notre pensée commune qui serait que le rire serait le propre de l'homme. Et puis j'aimerais que vous parliez de cette autre expérience qui a été menée pour rechercher leur compétence à faire des inférences logiques, que par exemple les corbeaux ont bien maîtrisées, et notamment celle de raisonner par exclusion, et que les Kéas se sont au départ avérés toujours, par rapport aux corbeaux, peu doués, parce que l'expérience ne leur convenait pas. Pouvez-vous nous parler de ce qui s'est passé là?
Alors, ce qui est assez extraordinaire dans cette recherche, c'est pour ça qu'elle m'a tellement intéressée, d'abord parce que, je vais dire d'abord parce que ça participait évidemment de la transformation des Kéas, hein, le fait qu'entre 2002 et 2020, ben, les Kéas, d'une certaine manière, vont recevoir, parce qu'on les connaît mieux, parce qu'ils sont encore plus passionnants que ce qu'on savait, vont recevoir encore plus d'intérêt et donc probablement plus de protection. Et ça m'intéressait de voir, tiens, mais comment les scientifiques vont participer à ça? Et comment, en 2002, je trouve extrêmement peu d'expériences faites avec les Kéas sur leur intelligence et sur leurs compétences cognitives, alors qu'à partir des années 2015, 2016, 2017, les expériences vont se multiplier. Et alors, on va leur demander, en effet, ils sont si intelligents, ils sont si débrouillards, ils sont si dégourdis, ils ont l'air si flexibles, eh bien, est-ce qu'ils ne pourraient pas entrer, parce que c'est un peu comme ça que ça se passe avec les chercheurs très souvent, entrer en compétition avec les corbeaux, qui sont quand même l'élite chez les oiseaux, l'élite cognitive chez les oiseaux. Et donc, les chercheurs se sont demandé, tiens, non, on va essayer de leur demander, puisque les corbeaux le font très bien, est-ce qu'ils sont capables de faire des inférences par exclusion? Alors, ce qu'on appelle une inférence par exclusion, mais avec un corbeau, si vous mettez de la nourriture dans une boîte, et que, par exemple, vous lui indiquez que, voilà, vous prenez une autre boîte que vous allez garder vide, eh bien, le corbeau, si vous agitez la boîte vide, et qu'il n'entend rien, c'est que donc forcément la nourriture est dans l'autre boîte. Si vous lui avez appris simplement que quand la boîte est vide, c'est forcément l'autre qui contient de la nourriture. Et donc ça demande quand même des compétences qui sont relativement élaborées. Et donc on s'est dit, ben, les Kéas devraient y arriver. Et ben, paf, on n'y arrivait pas avec les Kéas. Et alors là, c'est ça qui est extraordinaire avec ces chercheurs. Ils ne se sont pas dit, bon, ben, tiens, les Kéas n'y arrivent pas, mais tant pis, ben voilà, ils sont pas aussi doués que les corbeaux. Donc, ils se sont dit, qu'est-ce qui les empêche d'y arriver? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faciliter le fait qu'ils y arrivent? Parce que nous sommes quand même convaincus qu'ils pourraient y arriver. Et donc, les chercheurs vont modifier les conditions d'expérience, non pas les biaiser, mais les modifier pour permettre aux clients d'être dans de bonnes conditions pour le faire. Et par exemple, une des conditions qu'il fallait faire avec les clients, c'est qu'en fait, leur goût, leur libido exploratoire, ils ont tellement envie d'explorer qu'en fait, c'est pas tellement, je veux dire, jouer ce jeu de reconnaître là où il y a de la nourriture, où il n'y en a pas. Ils n'avaient pas trop envie, ils avaient trop envie d'explorer. Et donc, ce qu'ont fait les chercheurs, eh bien, c'est de passer énormément de temps avec les mêmes objets pour permettre aux clients de s'enlacer et puis après de mener l'expérience avec ces objets. Et une fois qu'ils ont fait ça, que donc l'expérience, la jubilation exploratoire a commencé à diminuer parce que les clients s'habituent à la situation, eh bien, ils ont pu manifester une compétence qu'on pouvait attendre de court pas, ça dépendait selon qu'on soit optimiste ou pessimiste, et ils ont manifesté exactement la même compétence que les corbeaux, ils étaient capables d'inférence logique par exclusion.
Si bien que par cet exemple, ce double exemple d'IKEA, on en arrive à une de vos affirmations en 2002, qui moi m'a particulièrement ému de la relire, me disant en 2002, c'était déjà le cas. Vous écrivez, au tout début de « Quand le loup habitera avec l'agneau », les animaux ont, au cours de ces dernières années, décidément bien changé. Les éthologues, les primatologues et les psychologues cognitivistes ont, à cet égard, joué un rôle d'une importance considérable. Et un peu plus loin, vous écrivez « En somme, concluent ces chercheurs, les animaux ont changé, mais on ne peut manquer de remarquer que nous avons changé aussi. »
Alors oui, en fait, moi, ce qui m'intéressait, et c'est là où c'était extrêmement important pour moi, en fait, j'avais plusieurs raisons d'écrire cela. En fait, il faut voir d'où on venait dans les recherches de sciences humaines autour des animaux. Alors, il y avait quand même un certain biais dans les recherches en sciences humaines autour des animaux, c'était de les exclure de la scène. C'est-à-dire, si on faisait de l'anthropologie des rapports humains-animaux, ben, généralement, on parlait beaucoup des humains et de leur représentation des animaux, mais les animaux réels, personne ne s'y intéressait réellement dans cette histoire. Donc, il y avait d'un côté les animaux réels auxquels s'intéressaient les zoologues et les éthologistes, et de l'autre côté, il y avait les animaux de la représentation auxquels s'intéressaient les sociologues, les sciences humaines, les psychologues, etc. Et les anthropologues, bien entendu. Et il y avait un mouvement qui commençait à rompre avec cette habitude et qui disait, mais en fait, si on veut penser les animaux, il faut les penser avec les humains qui s'en occupent, que ce soit des éleveurs, que ce soit des domesticateurs, que ce soit des chasseurs, que ce soit des scientifiques. Et si on veut penser les humains dans un rapport aux animaux, il ne faut surtout pas exclure ce que ces gens diront des animaux et ce que ces animaux font et font faire aux gens. Et donc, pour moi, c'était très important d'essayer de garder, de garder une scène très peuplée. C'était ça le motif. Alors, comment garder la scène peuplée? Comment faire pour que cette scène reste peuplée, qu'on n'oublie personne en route, qu'il n'y ait personne qui vienne frapper au carreau après en disant « Mais moi, pourquoi vous ne parlez pas de moi alors que je suis un acteur principal dans cette histoire ?» Et une bonne façon de faire, c'était de voir comment les uns et les autres faisaient faire des choses les uns aux autres. Ça voulait dire que c'est vrai que les scientifiques font changer leurs animaux. On voit comment, par exemple, les Kéas vont être modifiés entre 2002 et 2020. Eh bien, ils vont acquérir des tas de compétences, ce qui va évidemment aussi modifier leur comportement réel, puisque les gens se comporteront autrement avec eux, puisqu'ils sont différents dans le laboratoire que ce qu'ils étaient avant d'entrer au laboratoire. Mais comment, en même temps, du fait que ces animaux changent, ils vont commencer à nous obliger à changer, et ça à tous les niveaux, quel que soit. D'abord, ils vont modifier leurs scientifiques. Il y a quelque chose, par exemple, que j'ai découvert après mon entretemps, c'est qu'il y a maintenant des chercheurs qui jouent avec des rats dans les laboratoires à cache-cache. Alors, j'ai tout de suite interrogé en disant, mais comment est-ce qu'ils nous ont appris ça? Je suppose avec des récompenses. Pas du tout. Ils ont refusé de donner des récompenses en disant que ça sabotait, ça salopait le travail. Je peux le dire comme ça. Parce qu'après, l'humain n'est plus intéressé que par la récompense et il n'y a plus moyen de rien faire. On le rembête avec les récompenses. Je ne dis pas que c'est une généralité. Je pense que moi qui ai une chienne, j'ai appris à utiliser les récompenses pour la féliciter. Mais c'est plutôt un cadeau, cette chienne reçoit la récompense comme un cadeau. Et donc ces chercheurs ont décidé de ne pas utiliser la récompense, mais le jeu, l'apprentissage et la joie de jouer. Et bien, ces chercheurs maintenant jouent à cache-cache, et c'est parfois le rat qui se cache et parfois le chercheur. Ça montre comment les animaux ont été capables de transformer leurs chercheurs. Mais ça s'est passé tout seul. C'est donc les premiers chercheurs qui transforment des animaux, qui les rendent plus intéressants, qui sont plus audacieux dans la manière de pratiquer, de faire de la méthodologie, bref, de penser leurs pratiques et de penser leurs animaux, qui vont commencer à modifier ces animaux, qui eux-mêmes vont saisir des occasions pour devenir plus intéressant, plus compétent et surtout plus intéressé, parce qu'on ne dira pas que le miracle joue gratuitement à cache-cache avec un chercheur, n'est pas intéressé. C'est évident qu'il est intéressé, autrement il ne le ferait pas. Et ainsi, de proche en proche, par des effets comme ça en cascade, on va voir que les animaux vont transformer leurs humains, que les humains vont transformer en retour leurs animaux, puis se faire transformer. Il y en a aussi une cascade de transformation qui permet finalement de rendre compte qu'on vit aujourd'hui différemment avec les animaux, en tout cas avec certains d'entre eux, que ce qu'on vivait il y a 20 ans, il y a 40 ans, il y a 60 ans d'ici.
Vous venez de prononcer un mot important, parce que le vocabulaire dans vos livres sont importants, Vinciane Després. On entend souvent, on lit souvent dans vos textes le mot histoire, nous mobiliser dans des histoires au sens de récit, de représentation, et pas seulement au sens fictionnel. Il y a le mot aussi beaucoup s'actualiser, c'est un terme que vous utilisez beaucoup, et là, le mot transformer. C'est un mot dans vos textes, transformer, qu'on ne pourrait pas s'attendre à lire de la part d'une philosophe qui réfléchit à l'éthologie. Vous écrivez par exemple « Pourquoi ne pas nous transformer afin de pouvoir transformer les animaux ?» C'est ce que vous veniez de nous décrire en fait. Et ça, c'est proprement nouveau, c'est proprement inédit dans notre relation avec les espèces terriennes.
Alors oui, c'est inédit à plus un titre. Hein. C'est inédit d'abord parce que les scientifiques ont pendant longtemps, parce qu'ils étaient formés à vouloir absolument de la distance, de l'objectivité, bref, et aussi parce qu'on essayait d'étudier des êtres de nature, parce qu'on croyait encore à la possibilité qu'il y ait une nature, on ne se rendait pas compte à quel point c'était finalement une conception très locale et historiquement située. Et donc, du fait qu'ils avaient besoin d'animaux naturels, donc les moins possibles contaminés par l'humain. Le fait qu'ils devaient avoir une distance, pensaient-ils, objective par rapport à ce qu'ils étudiaient, pour eux, c'était la pire des choses d'imaginer qu'ils étaient en train de transformer les animaux qu'ils observaient ou qu'ils expérimentaient. Ils voulaient bien, à la rigueur, le transformer sur un point bien contrôlable quand il s'agit d'une expérimentation dans un laboratoire, mais il ne fallait pas qu'il y ait d'autres transformations qui les accompagnent. Et ça, c'est intéressant, c'est que les chercheurs maintenant, je remarque depuis quelques années, sont de moins en moins contraints par ce type d'exigence qui était quand même redoutablement difficile à tenir, parce qu'il y a ce qu'ils écrivent et puis il y a ce qu'ils font sur le terrain, parce que ça fait des choses quand même assez différentes, et c'est très intéressant de voir ces différences, mais aussi le fait que les chercheurs maintenant sont beaucoup plus libres d'imaginer avec leurs animaux et d'imaginer, par exemple, qu'en effet, une observation est déjà une transformation. Vous ne pouvez pas, par exemple, ça c'est Thelma Howell qui le disait, vous ne pouvez quand même pas vous imaginer que vos chimpanzés que vous observez dans ce qu'on appelle la nature, vous ne les transformez pas, mais vous auriez quelqu'un qui court derrière vous toute la journée, pendant des années, à noter le moindre de vos comportements, mais vous changeriez. Donc, n'imaginez pas du tout que les animaux ne changent pas. Ils prennent en compte votre présence et ils la prennent parfois même activement en compte, cette présence, puisqu'il y a certains animaux qui sont la proie des prédateurs, qui ont peur des humains et qui ont constaté très rapidement que quand les humains les observaient, ils étaient protégés des prédateurs puisque ceux-ci n'osaient plus approcher. Et donc, ce qu'on appelle l'habituation, par exemple, ça pourrait bien être un phénomène où les animaux, d'une certaine manière, comprennent qu'il y a un bon petit marché à faire avec les humains et exploiter l'observateur, finalement, c'est-à-dire profiter de sa présence et, d'une certaine manière, ce n'est pas seulement le tolérer, c'est même plutôt l'inviter à être présent dans le groupe. Et donc, c'est là où les transformations m'intéressent et le titre du livre, en fait, était une référence à quelqu'un qui pensait les transformations, mais qui était un naturaliste à la mode très ancienne du 19e, un naturaliste avant Darwin qui s'appelait Edward P. Thompson, et qui lui s'était mis en tête de décrire tout un livre de 400 pages sur les émotions des animaux, sur les passions des animaux, parce qu'il croyait en la prophétie d'Isaïe. Quand Isaïe décrit cette prophétie qui dit à un moment donné, eh bien, le loup habitera avec un agneau et un petit enfant les conduira par la main, Isaïe pensait que vraiment ça devait arriver, mais il disait, on ne va pas attendre la fin des temps pour que ça arrive, on va commencer à mettre cette prophétie d'Isaïe en place. Et pour lui, écrire la manière dont les animaux pouvaient déjà être transformés quand on leur porte de l'affection, quand on les connaît mieux, quand on n'est pas violent avec eux, etc. C'était d'écrire toutes ces transformations, c'était déjà une manière de convaincre ses contemporains de bien fonder et de la nécessité de cette prophétie d'Isaïe.
Eh bien, merci beaucoup, Vinciane Després, d'avoir pu en plus parler d'Edward P. Thompson. Vous lui laissez une bonne place dans votre ouvrage, et on a plaisir à le découvrir, et vous nous le faites découvrir. Merci beaucoup, Vinciane Després.
Merci. merci surtout à vous, Dominika. Et bonne fin d'émission et bonne soirée à vous et à tous les auditeurs.
Merci beaucoup.